Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Bien manger, maintenir une activité physique, plus que jamais, ces deux piliers de la prévention sont d'actualité au moment où la crise sanitaire s'inscrit dans la durée dans certaines régions du monde et que pour échapper à la tension ambiante qui peut se révéler extrêmement pesante, marcher, danser, se dépenser, écouter son corps, ces activités aussi simples que gratuites peuvent constituer des remèdes anti-stress efficaces. Se bouger, se faire plaisir au moment des repas, se faire plaisir en consommant des aliments qui eux aussi nous font du bien avec des produits frais, des ingrédients simples, une cuisine du marché, manger et bouger sous le signe du bien-être en suivant des conseils avisés, en évitant les fausses informations, les aliments dits miracles, les privations inutiles comme certains produits trop sucrés, trop salés qui nuisent à notre santé. Bien manger en échappant aux sirènes du marketing et du vite fait mal fait, bien sûr, essayez au maximum d'avoir une activité physique régulière, pas toujours facile quand on vit en ville avec le travail, un emploi du temps très dense. Mais lorsque l'on prend conscience des bienfaits du mieux manger, du plus bouger, lorsque l'on se pose pour réfléchir à ses véritables priorités, on comprend que se faire du bien, c'est le meilleur moyen de gagner du temps, ou plutôt de profiter du temps, d'améliorer simplement sa qualité de vie. Activité physique et nutrition, c'est notre programme du jour dans Priorité Santé. Émission spéciale sport et nutrition en compagnie de nos deux chroniqueurs avec nous en direct et en studio. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport et avec nous également Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et pour poser vos questions, le numéro de l'émission Priorité Santé, bien sûr, 33 84 22 75 75 et la page Facebook de l'émission. On attend vos appels, vos messages.
Priorité Santé sur RFI.
Et avant de retrouver toutes les questions des auditeurs, des auditrices de Priorité Santé, on va commencer, si vous le voulez bien, par mes questions, Stéphane Besançon. D'abord, cette étude qui a été publiée le mois dernier, elle s'intéresse au lien entre la qualité nutritionnelle des aliments et la mortalité. En s'appuyant sur un indice, une indication, c'est en lettres et en couleurs, on trouve cette indication sur les produits alimentaires notamment vendus en France. C'est le système d'étiquetage qui s'appelle Nutri-Score. Stéphane, d'abord, petite explication, à quoi ça ressemble ?
Alors, c'est un code couleur avec des lettres qui va de A à E et de vert à rouge, on va dire. Donc, tout simplement, plus on avance dans les couleurs vers le rouge, plus on avance dans les lettres d'allant de A à E, plus la qualité de l'aliment est médiocre, on va dire, sur le plan nutritionnel. C'est un score qui allie plein de paramètres. On peut pas l'expliquer là, c'est très complexe. Mais en gros, qui va prendre en compte les bons nutriments et les mauvais nutriments. Donc, plus on va vers le rouge, plus ça veut dire que les bons nutriments sont faiblement présents et les mauvais très salés,
feu
très
rouge,
sucrés.
Comme pour la circulation.
Voilà, exactement. Et inversement, plus on est vers le A et le vert, plus ça veut dire que les mauvais nutriments sont moins présents et les bons sont plus présents. Donc c'est vraiment un repère simple visuel qui permet d'orienter. C'est
pas besoin d'être un spécialiste et pas besoin surtout de mettre sa loupe pour aller lire en minuscule les ingrédients qui sont sur l'emballage.
Oui, c'est ça qui est très malin. Et alors l'autre chose aussi, c'est que c'est pas un simple label qui a été mis comme ça sur le marché. Derrière, il y a beaucoup d'études, beaucoup de publications qui montrent que ça fonctionne dans le choix alimentaire pour améliorer la qualité du panier moyen de ce qui peut être acheté. C'est ça vraiment l'idée. Ça marche pour le moment très très bien. D'ailleurs, c'est en train d'être, ça a dépassé la France. Beaucoup de pays sont en train de l'adopter. C'est quand même quelque chose de très très positif.
C'est important parce qu'il y avait pas mal de labels qui étaient, on va dire, sur le marché, mais qui en fait étaient faits par les marques et donc qui n'étaient pas indépendants. On disait, eh bien, ça a reçu le label des consommateurs. Non, c'était le label de la marque en fait.
Ouais, c'est de l'autopromotion.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'université, de la science et qui est complètement libre de conflits d'intérêts. Ça, c'est ce qui est très important. Et des marques, maintenant, sont en train d'abandonner leur label pour venir à celui-là, pour raccrocher l'opinion publique. C'est ce qui est très important.
Et j'ai même vu sur des spots télé qui mettent en avant maintenant l'indice Nutri-Score. Ouais. C'est un argument de vente en plus. Dans les esprits, on essaye de manger, on va dire, de plus en plus sain. On va revenir à l'étude, si vous le voulez bien, Stéphane. Alors, elle est très sérieuse. Ça a été conduit par des universitaires, des structures comme l'INSERM, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Université de la Sorbonne, le Centre international de recherche sur le cancer. Eh bien, ces travaux montrent que consommer en fonction justement de ces infos nutritionnelles, de cet indice Nutri-Score, eh bien, c'est bon pour la santé, tout simplement.
Oui, c'est une étude qui est sur une cohorte qu'on appelle EPIC, c'est je pense 500 000 personnes suivies depuis 1992 jusqu'à 2014 ou 2015, donc c'est très long, c'est très sérieux. Ils ont mis toutes les constantes démographiques, sociales, pour bien qu'il reste vraiment le panier des gens. Et effectivement, on s'aperçoit que les gens qui ont une consommation avec des meilleurs aliments, c'est-à-dire j'allais dire les plus verts, et qui réduisent la part rouge au Nutri-Score ou alors dans les couleurs un peu avant le rouge, eh ben ont une mortalité plus faible. Donc il y a une vraie réduction de la mortalité. Donc ça prouve deux choses, hein, que bah, l'alimentation, ce qu'on sait déjà, un vrai lien sur la santé, sur la mortalité, et que bah, plus on l'améliore, et plus ça améliore le bilan, j'allais dire, final. Donc, et ça remontre encore une fois aussi, c'est une nouvelle étude qui vient montrer que ce Nutri-Score, c'est pas juste un label comme ça, c'est un vrai impact sur le choix et derrière le choix sur la santé.
C'est un élément d'information très important pour bien se nourrir. Alors, je me tourne vers vous maintenant, docteur Jean-Marc Sen. Oui. On est en octobre. Hein, cette semaine, enfin la semaine passée, Octobre Rose, Priorité Santé y a consacré une émission. C'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et la Ligue contre le cancer vient de publier un petit livre très documenté pour montrer, s'il le fallait encore, pourquoi l'activité physique, eh bien, c'est une alliée contre le cancer.
Eh oui, un livre qui est vraiment très intéressant. L'activité physique, une alliée contre le cancer, c'est un livre qui a été publié aux éditions In Press. Là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça montre vraiment, c'est un changement de position de l'activité physique vis-à-vis de traitements aussi lourds que le cancer. On le sait que dans la prévention, c'est tout à fait efficace. Et là, on dit, mais voilà, dans le traitement, on sait que il faut absolument utiliser cette activité physique, notamment parce que ça réduit les effets secondaires du traitement. Et donc, même malade, il faut avoir une activité physique régulière. Et ça, ce livre est vraiment intéressant parce qu'il montre comment s'y prendre. Il montre quel sport choisir, à qui s'adresser justement pour être pris en charge. Et en ça, ce caractère très pratique, je l'ai trouvé vraiment intéressant.
Et c'est vrai que quand on est concerné, des fois, on a un petit peu besoin de trouver des informations fiables parce que si on va par exemple sur le net, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Et ce qu'on comprend, hein, docteur Sen, c'est que l'importance de cette activité physique, ça peut être y compris pendant qu'on reçoit les traitements et bien sûr après.
Absolument. C'est pendant qu'on reçoit le traitement, après, et le but, c'est que cette activité soit adaptée. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on sait que ça va jouer sur le moral, ça va aider à traiter la fatigue, bien évidemment. Ça va réduire les risques de récidive. Ça, c'est très important du cancer. Alors, ça, c'est un guide qui est vraiment intéressant pour ça parce qu'il s'adresse à tout le monde, aux malades, aux familles, aux professionnels. Ça donne des pistes véritablement et des conseils pratiques. Et donc, ça permet vraiment de se mettre en action justement pour essayer d'aller vers l'action et la reprise d'activité physique et sportive.
J'en rappelle le titre. Hein, Activité physique, une alliée contre le cancer par Sébastien Alexandra Landry. C'est publié chez In Press. Voilà pour nos deux coups de projecteur sur l'actualité sport-nutrition. Tout de suite, on retrouve les auditeurs en ligne.
Priorité Santé sur RFI.
On vous donne la parole. Les auditeurs de Priorité Santé sont avec nous, tout comme nos deux chroniqueurs pour cette émission spéciale nutrition et activité physique. Le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et nos auditeurs qui sont avec nous. On commence par Facebook. Hein, un petit peu de lecture. Stéphane Besançon, cette première question, je vous l'adresse. Elle est signée Renaud. Il écoute RFI au Togo. Il demande, j'aimerais j'aimerais savoir quelle alimentation je dois adopter pour renforcer mon système immunitaire. On peut dire que c'est une question d'actualité, hein, tout le monde est concerné. L'immunité, l'alimentation, ça va ensemble ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut sortir de l'aliment miracle qui renforcerait le système immunitaire à lui tout seul et qui pourrait combattre une maladie à lui tout seul. On n'est pas du tout là-dessus, mais effectivement... Être en bonne santé, avoir une alimentation équilibrée, notamment en micronutriments, vitamines et minéraux qui participent à pas mal de développement du système immunitaire et de réaction du système immunitaire, entretient ça, le garde en bonne force et l'aide à être plus résilient et à mieux fonctionner. Donc ce qu'il faut se dire, c'est attention, c'est pas un complément alimentaire ou un aliment, mais c'est une alimentation équilibrée. Lié à une activité physique d'ailleurs, hein, parce que les deux participent au renforcement du système immunitaire et surtout d'avoir un apport adéquat en micronutriments, vitamines et minéraux qui rentrent dans beaucoup de processus qui vont aider le système immunitaire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, un ensemble, et surtout pas penser que parce qu'on prend un complément alimentaire particulier, on sera plus malade et que le système immunitaire va répondre à tout, mais de bien allier l'ensemble et d'allier ça avec l'activité physique qui est aussi centrale sur cette partie-là de la réponse du corps.
Ce qu'on appelle l'hygiène de vie, hein, un ensemble.
Tout à fait.
Un auditeur en ligne, on va partir tout de suite pour Yaoundé, pour le Cameroun, où nous retrouvons Yougou. Bonjour Yougou.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute Yougou, racontez-nous, vous faites quoi comme sport ?
Oui, je fais de l'athlétisme, madame.
Oui.
Oui. Bon, ma question s'adresse beaucoup plus au docteur du sport.
Oui.
Oui, j'aimerais savoir, puisque j'ai vraiment un peu pris du temps, vraiment, sans faire de la course. Bon, j'ai souvent l'habitude de courir 2 heures et demie par jour. Mm-hmm. Bon, subitement, j'ai eu, par des raisons beaucoup plus personnelles, un arrêt brusque, voire même jusqu'à ça, a pris presque un an. Bon, j'aimerais savoir si c'est que... En recommençant mon sport, si je n'aurais pas des troubles au niveau du genou, puisque ça a été l'un de mes problèmes en fait. J'ai souvent l'habitude d'avoir ce mal au niveau du genou, où j'ai souvent l'impression que mon genou va très très mal. Mais une fois, quand je me relance dans la course, subitement ce mal finit par disparaître. Mais sauf que j'ai mis vraiment du temps à courir encore. J'aimerais savoir si je recommande.
Yougou, pour être bien clair, vous avez arrêté cette activité, cette course, à cause de la douleur au genou ?
Non, pas à cause de la douleur au genou.
Mais pourquoi vous avez peur que votre genou vous lâche ?
Oui, j'ai peur parce que c'est un mal qui m'arrive souvent quand je cours souvent sur la piste.
Donc vous aviez quand même une douleur, une défaillance au niveau du genou quand vous faisiez encore de l'athlétisme ?
Oui. Oui, quand je mets longtemps, je me mets en repos longtemps.
En repos longtemps. Et vous en aviez parlé à un médecin, vous avez consulté, vous avez montré votre genou à quelqu'un ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Bon, puisque moi-même je suis du corps médical et je prends parfois des antidouleurs aussi parfois, mais sauf que quand je me relance dans la piste, ce mal finit par partir elle-même seule.
Et vous avez envie vraiment de vous y remettre, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, docteur Jean-Marc Sanyougou, qui se demande comment éviter les douleurs au genou, il a pris un petit peu d'automédication, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Bon, évidemment, c'est difficile de faire un diagnostic, bien sûr, à la radio, mais j'aurais juste deux questions, Yougou. Est-ce que vous avez déjà eu une grosse blessure au niveau du genou ? Première question. Et deuxièmement, est-ce que votre genou, quelquefois, gonfle ?
Non, pour l'enflement au niveau de mes genoux, je n'ai jamais eu cela. Mais sauf que quand je prends un peu un recul, subitement, quand je recommence ma course, j'ai souvent l'impression d'avoir mal au genou.
Très bien. Très bien. Alors, bon, effectivement, le premier conseil, ça sera bien évidemment de consulter, parce qu'il va falloir examiner ce genou pour savoir pourquoi cette douleur, bien évidemment, persiste. C'est difficile de faire un diagnostic, mais la première chose qui fait penser, c'est souvent les petites usures au niveau du cartilage qui peuvent donner ce type de douleur. Bon, on pense à ça en premier. Mais ça, c'est le médecin que vous allez consulter qui vous confirmera si c'est le cas ou pas. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il faudra essayer, en fait, de diminuer diminuer les contraintes mécaniques sur le genou. Alors pour ça, c'est le sol sur lequel vous allez courir. Il va falloir essayer d'avoir un sol souple, éventuellement réétudier votre chaussage, ça sera très important, et puis probablement alterner la course avec d'autres activités qui n'ont pas d'impact, c'est-à-dire par exemple faire du vélo ou faire des exercices de musculation, c'est-à-dire essayer de ne pas faire uniquement de la course à pied, mais d'alterner un petit peu les choses. Donc j'aurais envie de dire dans l'ordre, il faut premièrement consulter un médecin pour savoir un peu ce qui se passe au niveau de ce genou, et deuxièmement, probablement adapter votre activité sportive par un chaussage, par un sol plus souple, par une alternance d'activités sans impact en plus de la course, pour pouvoir essayer de soulager un petit peu l'articulation.
Yougou, vous disiez que vous étiez dans le secteur de la santé, vous êtes quoi? Vous êtes infirmier?
Oui, je suis infirmier.
Mais vous savez bien que prendre soi-même des médicaments, justement, si vous avez cette douleur qui persiste, vaut peut-être mieux aller en parler à un médecin, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai. Un spécialiste, puisque moi, je ne suis pas...
Et c'est ce que vous diriez si quelqu'un venait vous voir, Yougou, non? Alors, essayez d'appliquer les bons conseils à vous-même aussi, c'est important. Est-ce que vous avez une question à poser à Stéphane Besançon, côté peut-être aliments à prendre pour bien récupérer?
Oui. Concernant par rapport à ma discipline que je pratique.
Oui, à l'athlétisme.
À l'athlétisme. J'aimerais savoir, après une séance de course, j'aimerais savoir quel aliment les mieux adaptés à avoir pour récupérer.
Stéphane Besançon, quand on passe à table, est-ce qu'il y a, on va dire, certains aliments qui correspondent à telle discipline, ou c'est des valeurs ou des conseils qui sont globaux?
Alors ça va plutôt dépendre du type d'activité physique, peut-être Jean-Marc peut spécifier ça, mais ça va dépendre du type d'activité physique. Si on va être en avant, par exemple, un effort très très long, eh ben il va bien falloir faire des réserves, hein, manger plutôt des glucides lents qui vont durer dans le temps, pour pas, je veux dire, c'est pas, par exemple, si on va faire un match de tennis de 4 à 5 heures,
une épreuve d'endurance.
Voilà, c'est pas du tout c'est pas la même, tout à fait les mêmes conseils que si on va faire un sprint de 10 secondes, c'est pas tout à fait les mêmes alimentations. Donc c'est comme on parle d'activité physique adaptée, bah c'est un peu pareil pour l'alimentation, ça va vraiment dépendre pour quel type d'effort on prépare l'athlète. Alors bien sûr, il y a quand même il faut de toute façon toujours qu'il y ait un socle d'énergie de base, parce qu'autrement il va y avoir des problèmes d'hypoglycémie. On le voit d'ailleurs au tennis par exemple, quand on a ces joueurs qui vont manger leurs bananes, là souvent c'est parce qu'en général il y a un petit, soit ils ont besoin de pompe, soit ils ont besoin de reprendre un peu. Mais il y a, après ça dépend quand même vraiment de l'effort, et on n'est pas sur les mêmes types d'efforts.
Et pour la récupération après?
Alors la récupération, là il y a deux temps, il y a le tout de suite après où il va falloir se réhydrater, il va falloir reprendre un tout petit peu d'énergie à court terme, et après attendre un peu, ne pas faire un gros repas tout de suite, attendre un peu et là repartir vers un repas un peu plus équilibré pour justement ramener plus de nutriments et de calories, enfin de reprendre l'énergie nécessaire.
Voilà Yougou pour ces conseils, on vous souhaite une excellente journée à Yaoundé.
À Kinshasa, 105 FM.
Motivation, activité physique, on retrouve tout de suite un auditeur en République démocratique du Congo. C'est vous, Siméon, bonjour.
Bonjour Caroline.
On est à l'écoute, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe entre vous et le sport?
Oui, moi j'ai arrêté de faire le sport il y a de cela maintenant une année. Et c'est à cause du faute du temps. Je ne trouve pas le temps pour le faire, et deux fois à cause de la flemme en tout cas. Et j'avais quelques petites questions à poser, celle de savoir avec quel exercice, donc, par où je devais commencer, avec quel exercice devrais-je commencer pour reprendre ou avoir encore la même envie qu'avant. Et la deuxième, c'est de savoir, j'ai 23 ans et je pèse 80 kilos. Est-il un bon poids pour moi ou je suis en surpoids?
La question est posée. Ce n'est pas moi qui vais y répondre. Moi, j'ai une petite question à vous te poser, Siméon. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour que du jour au lendemain, vous arrêtiez le sport? Je ne sais pas, il y a eu un problème avec les personnes avec qui vous en pratiquiez, ou c'est juste, comme vous le disiez, de la flemme, de la paresse. Pourquoi vous avez arrêté? Est-ce que vous savez pourquoi?
Ouais, mais premièrement, c'est à cause du temps.
Du temps,
en fait,
manque de temps.
L'université, ouais, manque de temps, l'université ne me permet pas, en fait, de le pratiquer souvent le matin, parce que j'y vais au cours, très tôt le matin. Mmh. Et deux fois, je pense que c'est à cause de la paresse aussi, parce que deux fois, j'ai peur de douleurs. Mmh. Vous voyez, les douleurs que vous ressentez après avoir effectué une activité intense le lendemain après l'activité. Donc, c'est à cause peut-être de ça que je me dis, bon, c'est pas la peine.
Et depuis que vous avez arrêté le sport, vous avez pris du poids beaucoup ?
Ouais, je commence maintenant à avoir un ventre qui...
Vous avez vu un changement de physionomie ?
Oui, oui.
Et le gain de poids, vous avez pris combien de temps ? Puisque vous dites, ça fait un an que vous avez arrêté, vous avez pris combien de kilos, on va dire ?
10 kilos en plus.
10 kilos en un an, voilà. Donc là, on a des indications. Vous avez donné votre poids 80 kilos. Votre taille, c'est quoi ?
1m73.
1m73. Alors, docteur Sen, on comprend, il y a un problème de temps, un problème de motivation, puis un problème aussi pour Siméon de changement d'allure. Il a pris 10 kilos, il est jeune. Hein. 10 kilos en un an, ça fait quand même un gain assez important. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Oui, alors dans sa question, ce qu'on entend, Siméon, bonjour, c'est de dire, voilà, l'idée c'est d'essayer de finalement de se remotiver quoi, pour faire l'activité. Et là, vraiment, le critère qui va être principal, c'est qu'il trouve du plaisir dans ce qu'il va faire. Et là, immédiatement, on voit des choses qui peuvent être quand même assez intéressantes. C'est-à-dire que, évidemment, le fait de faire de l'activité physique, et on pourra voir lesquelles, eh bien, vont lui permettre justement de retrouver une silhouette. Mm-hmm. Parce que là, ça, c'est important. S'il a pris un tout petit peu de poids, qu'il a envie d'être un petit peu plus... À 23 ans, généralement, on aime bien être un petit peu plus en forme, on va dire musclé, voilà, en quelque sorte. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va être tout à fait possible grâce au sport. La deuxième chose, c'est que si, bien sûr, il fait des études, peut-être que par période, il a des périodes de stress, un petit peu quand arrivent les examens. Et on sait que faire de l'activité physique régulière, eh bien, permet eh bien, de se concentrer plus longtemps. Et oui, ça améliore l'activité intellectuelle. Et puis, ça permet aussi de gérer le stress. Et donc, vraiment, à travers d'abord le plaisir de l'activité qu'il va pouvoir choisir, la gestion de sa silhouette, la gestion du stress, tout ça, ça peut être vraiment des arguments en se remettant qui peuvent être intéressants où il va avoir plus de bénéfices à le faire qu'à ne pas le faire. Alors après, quel sport choisir ? Eh ben, c'est des sports qui lui font plaisir. Mm-hmm. Si j'ai cru comprendre qu'il avait fait du karaté, alors s'il aime les sports de combat, ben, il y a plein de sports de combat qu'il peut choisir évidemment et qui peuvent être tout à fait plaisants ou faire de la musculation, hein, ce qui sera intéressant à la fois pour être peut-être plus performant dans les sports de combat et puis en même temps avoir une meilleure silhouette. Donc voilà, il y a un choix comme ça à faire, mais qui est en fonction un peu de son objectif, de ce qu'il a envie de faire.
En tout cas, on a l'impression que la prise de conscience est là. Stéphane Besançon, on a entendu Siméon soucieux de sa ligne, de sa taille. Est-ce qu'on va dire qu'à certains aliments, il disait qu'il avait pris du ventre, de la graisse sur le ventre ? Est-ce qu'on peut dire que certains aliments font grossir une partie de notre anatomie plutôt qu'une autre, ou c'est la nature de l'individu qui va le décider ?
Ce qui est sûr, c'est que si on mange trop ou qu'on mange trop gras ou trop sucré, il y a des zones de stockage des graisses, donc le ventre en fait partie. Là, moi, ce que je dirais pour Siméon, ce qu'il a dit deux fois, c'est que c'est un gros mangeur, donc ça veut dire qu'il mange beaucoup.
Il y a de l'appétit.
Et que il devait pas grossir parce que comme il faisait de l'activité physique, sûrement ce qu'il mangeait s'équilibrait avec son activité physique. Et ce que je vois là, c'est que l'arrêt de l'activité physique fait qu'il y a un déséquilibre. Maintenant, il mange trop par rapport à sa dépense énergétique. Mm-mm. Donc déjà, la première recommandation, je pense, parce qu'il y a, j'ai calculé rapidement, le surpoids, il y a un petit surpoids, mais qui n'est pas non plus énorme, ce serait déjà de baisser, sans même parler du type d'aliment, baisser la quantité mangée, tant qu'il n'a pas repris une activité physique importante. Mm-mm. Et normalement, là, il devrait voir un peu son poids reculer. Après, effectivement, pour ce qui est du stockage de graisse de manière plus sur le ventre, etc., c'est les conseils classiques de manger moins gras, parce que là, tout de suite, on apporte des calories, on apporte des graisses, moins sucré, et réduire les quantités. Je pense que déjà, s'il réduit les quantités, vu ce qu'il a dit, il devrait déjà rééquilibrer sa balance, ce qu'on appelle la balance énergétique, et ça devrait déjà s'améliorer. S'il reprend le sport, normalement, il devrait revenir à un poids plus normal.
On va dire, Siméon, double motivation hein, pour retourner faire du sport et puis pour limiter un petit peu la ration. C'est un petit peu ce qui vous attend. Vous vous sentez prêt ou pas ?
Oui, je me sens très prêt et éclairci avec toutes les interventions de docteur.
Merci beaucoup, Siméon. Très bonne journée à vous à Kinshasa. On reste en RDC. Lubumbashi, c'est notre direction avec Alfred qui est en ligne. Alfred, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous ce qui vous arrive, Alfred.
C'est moi, je fais du sport et après, J'ai travaillé dans un fatwa
oui.
où j'ai été dégoûté.
Oui.
J'ai été dégoûté et après, c'est devenu compliqué pour moi de manger la viande.
Oui.
Et je suis devenu vegan.
Vegan ou végétarien? Est-ce que vous mangez, vous prenez encore du lait? Vous prenez encore certains aliments d'origine animale?
Le lait, c'est parce que mon médecin m'avait obligé.
Ouais. Et vous mangez quoi d'autre encore? Des fois un petit peu de fromage, du yaourt?
Non, jamais.
Que du lait?
Que du lait, sur ordre du médecin, bien sûr.
Sur ordre du médecin, sinon vous auriez arrêté?
Oui.
Et vous faites le lien entre ce dégoût, en fait, cet arrêt d'une partie de votre alimentation, et donc cette activité que vous avez exercée, vous avez travaillé dans un abattoir. En fait, ça vous a révulsé.
Oui. Oui, oui.
Mais pourquoi? Mais en fait, j'ai une question qui va peut-être vous paraître idiote, mais je me lance quand même. Pourquoi arrêter le lait et les œufs, puisque ça n'a pas de rapport avec l'abattoir?
Non, mais franchement, c'est parce que je préfère dire par solidarité. C'est vraiment... C'est un génocide des animaux, ça met debout, je fais ça pour les laisser vivre en paix.
Donc c'est aussi parce qu'au fond de vous, vous êtes sensible au bien-être animal, c'est important pour vous aussi de ne plus manger des choses à base d'animal mort, on va dire tout simplement.
Oui, même vivant, parce que je me suis découvert une certaine sensibilité. Avant, j'étais un véritable viandard, comme on dit, mais depuis lors, ça met debout, c'est des rapports, je ne mange vraiment jamais.
D'accord. Et du coup, comment vous vous sentez? Vous avez perdu du poids?
Oui, en une année, j'ai perdu 4 kilos.
Oui. Alors que
j'ai arrêté le sport. Oui. Il y a exactement une année, j'ai arrêté le sport et je n'en pratique plus. J'ai vraiment perdu du poids.
Et vous êtes allé voir le médecin? Vous avez consulté à cause de cette perte de poids? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Oui, c'est lui qui m'avait conseillé de prendre du lait parce que je souffre un peu de sensibilité aussi. Mais il m'a dit, il m'avait donné des compléments alimentaires que je ne supporte pas. Je suis tout à fait sceptique à ces produits. Je ne crois plus à l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment des arnaqueurs. Et pour moi, la figure du preneur de la recouvrerie, c'est les compléments alimentaires. Mais j'ai quand même pas trouvé souvent dans le médecin.
Mais vous avez des questions? Alors, il y a Stéphane Besançon qui vous écoute. On entend bien votre prise de conscience qui est tout à fait personnelle, respectable. C'est votre choix, comme on peut avoir aussi un choix en matière de religion, de choix de vie, d'orientation sexuelle, etc. Chacun fait selon sa conscience. Mais vous avez des questions en matière de santé par rapport à ça?
Oui, j'ai perdu du poids et je voudrais prendre le sport. Et je voudrais prendre le sport.
Alors, je vais traduire parce qu'en fait, la ligne est mauvaise et on a un petit peu du mal à entendre. Donc, vous voudriez reprendre du sport, mais vous avez peur de refondre puisque vous mangez différemment avec ce changement de régime alimentaire. Stéphane Besançon, est-ce que vous avez l'impression qu'il devrait ajouter des choses à son alimentation, cet auditeur de Lubumbashi, Alfred, parce qu'il perd du poids, il veut refaire du sport parce qu'il aime le sport, mais il a peur de trop maigrir. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, déjà, le rassurer que ce qui lui arrive à beaucoup de gens qui travaillent dans des abattoirs ou dans des contextes comme ça, et que c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Du coup, il y a une sorte de révulsion qui fait que les gens, en réponse, arrêtent souvent de manger ce qu'on appelle des produits animaux, en fait. Donc ça, c'est quand même très fréquent. Il a dit qu'il mangeait un peu de tout et qu'il mangeait plutôt diversifié. Mm-hmm. Donc, pour moi, les compléments alimentaires ne sont pas forcément nécessaires s'il mange effectivement de tout. Si c'était un gros mangeur de viande, notamment rouge, de bœuf, etc., peut-être qu'effectivement, ça a baissé un peu le gras qu'il mangeait et que la perte de poids est due à ça. Je dirais que si la perte de poids se stabilise, ça ne me semble pas poser problème. Il mange déjà diversifié, donc il peut continuer aussi. Pour les protéines, la seule chose que je dirais, c'est que là, s'il enlève les produits animaux, c'est la question des protéines, il faut remonter la partie légumineuse, des noix.
Est-ce que vous en mangez, Alfred? Parce que quand on a préparé l'émission, vous avez parlé de farine de maïs, de pommes de terre, de légumes, de fruits. Moi, j'ai pas vu ni de lentilles, ni de noix, ni de fruits à coque. Vous mangez quoi exactement pour vous fortifier?
Je me fais beaucoup sur les céréales, le riz, le l'avoine, le blé, et sur les féculents.
Et des féculents, mais vous rajoutez pas d'huile spéciale? Vous rajoutez pas de légumineuses spéciales?
L'huile d'olive, c'est ma favorite, mais je ne mets pas d'huile particulièrement.
Stéphane Besançon, je vous vois tiquer. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses à rajouter pour équilibrer.
Bah, je pense qu'il faudrait, oui, remonter un peu en protéines. Et là, les légumineuses, les lentilles, les pois, des choses comme ça, ce serait pas mal en variation avec les céréales. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'enlever les céréales et de mettre que des légumineuses, mais c'est d'alterner un peu les légumineuses et les céréales pour remonter un peu. Et les noix aussi, hein, c'est très bien ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc ça me paraît bien. Après, si vraiment la perte de poids se poursuit et que le poids descend, bien sûr, là, c'est comme toutes les pertes de poids importantes, il faut absolument
consulter.
Ça, c'est un conseil générique tout le temps. Mais là, ça me semble pas inquiétant. Il faut quand même surveiller le poids. Et la reprise de l'activité physique me semble tout à fait possible avec une alimentation comme ça. Je vois pas de problème particulier.
Il n'y a pas de contre-indication. On vous souhaite une très bonne journée, Alfred. Très bonne journée à Lubumbashi. Stéphane Besançon, encore vous. Question Facebook avant une pause musicale. C'est Kalilou qui est à Cotonou au Bénin qui nous écrit « Il paraît que c'est dangereux de boire du lait après avoir mangé des fruits de cajou, des noix de cajou. C'est une rumeur que j'ai entendue. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez ?»
Ah, je pense que c'est totalement une rumeur parce que je vois pas du tout de lien entre les deux. Je vois pas, à part bien sûr comme toujours, j'allais dire allergie particulière connaît ou un produit si on en a une allergie va créer quelque chose.
Et puis quantité aussi. On parle pas de manger d'un kilo de noix de cajou et 2 litres de lait derrière. Là, c'est dangereux pour tout le
monde.
Voilà,
exactement. Mais si on reste dans des choses tout à fait normales et qu'on n'a pas d'allergie ni à l'un ni à l'autre, je vois pas. Pour moi, c'est une rumeur.
Et puis une bonne intuition de Kalilou quand il dit c'est une rumeur. En général, quand on commence comme ça, on dit méfiant.
Oui, tout à fait.
Voilà, sur les aliments miracles, trop en manger, pas en manger, tout ça, on fait attention. On reste ensemble, messieurs, dans quelques minutes, on va se retrouver avec d'autres questions. Tout de suite, un petit flashback, 50 ans en arrière, mais ça n'a pas pris une ride, c'est comme moi. Curtis Mayfield, Move On Up, j'ai osé. Si vous avez envie de bouger, ne vous privez pas à l'écoute de RFI et de Priorité Santé. Lutte contre la sédentarité, alimentation équilibrée au menu dans Priorité Santé avec nos deux invités en studio, Dr Jean-Marc Sen, médecin du sport, Stéphane Besançon, nutritionniste et une auditrice avec nous. On retourne au Cameroun, à Douala, avec vous, Jessica. Bonjour Jessica.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Bon, voilà, je me suis mise au sport il y a maintenant 2 ans pour perdre du poids. J'y suis arrivée et j'ai continué à pratiquer le sport par plaisir. Bon, mon problème actuellement, c'est que j'ai du mal à récupérer après une séance de sport. C'est-à-dire que je mange un fruit environ une demi-heure avant d'aller courir. Je m'hydrate à la fin de la séance. Je fais des étirements, mais je ressens énormément de fatigue. Et ça peut s'étendre sur 3 heures. Donc, ma question, c'est de savoir comment m'alimenter pour récupérer plus vite.
Et un élément important, Jessica, c'est votre âge. Hein, vous êtes jeune. Vous avez juste un peu plus de 30 ans, c'est ça?
Oui.
Donc, docteur Sen, grosse fatigue de Jessica après une séance de sport. Bah, la question, c'est celle de la récupération, des conseils à lui donner. Elle disait au début, elle s'est lancée pour perdre du poids. Maintenant, elle y a pris goût. C'est une très bonne chose. Mais pour que ça ne passe pas justement par un malaise ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'elle peut faire pour bien aller après le sport?
Alors, bonjour Jessica. Quel est le contenu de votre séance de sport? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites du sport?
Je me contente juste de courir. D'accord. Pendant 30-45 minutes.
Bon. Et lorsque vous allez faire cette course, avant, vous ne mangez rien, vous y allez à jeun?
Non, je prends un fruit.
Un fruit, d'accord.
30 minutes avant, environ, avant d'aller courir.
30 minutes, un fruit, et ensuite vous avez une fatigue. Bon, alors, le premier élément comme ça qui vient à l'esprit, c'est probablement la stratégie nutritionnelle. Peut-être que si vous partez, on parle bien d'une séance de sport qui a lieu le matin, au lever. Mm-hmm. Bon,
oui.
Donc un fruit, ça peut être relativement léger. C'est-à-dire que si vous prenez qu'un fruit, vous n'avez pas d'alimentation et que vous faites une dépense qui est assez importante, bien évidemment, vous allez avoir un besoin en glycémie, en sucre dans votre organisme. Et cette légère hypoglycémie, eh bien, peut avoir tendance à vous fatiguer. Donc ça, la première chose, c'est bien sûr la stratégie nutritionnelle qui est à vérifier. Quand vous dites que vous vous sentez fatigué après la séance. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Est-ce que vous avez d'autres, vous sentez d'autres choses, des douleurs particulières ou alors des palpitations cardiaques, des choses comme ça?
Des douleurs, surtout des douleurs.
Des douleurs.
Bon. Articulaires.
Des douleurs articulaires. Bon, donc ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr c'est la stratégie nutritionnelle et puis cette séance. Est-ce que finalement vous avez une séance qui n'est pas, peut-être trop intensive par rapport à l'alimentation que vous apportez. Donc moi j'aurais envie de dire peut-être revoir d'autres, mixer vos séances, ne pas faire que de la course à pied, peut-être faire du renforcement musculaire, peut-être faire du gainage. Bientôt on va faire une petite chronique sur le gainage.
Ouais, ça sera prochainement.
Je vous invite à
Jessica,
regarder.
Moi j'ai une petite question. Pourquoi vous prenez pas un petit déjeuner avant d'aller courir? Pourquoi? Jessica, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je vous suis.
Alors, je vous pose la question. Quand vous vous levez le matin avant d'aller courir, vous n'avez pas faim? Vous n'avez pas le besoin de vous nourrir avant d'aller faire cette séance?
En fait, je crains de vomir.
Vous avez peur de vomir en vous mettant à courir après. Vous avez essayé ou pas du tout?
C'est quelque chose qui m'arrivait souvent avant les séances de sport au lycée. C'est-à-dire quand je m'alimentais, je veux dire normalement, pendant la séance de sport, ben voilà, je vomis.
D'accord.
Si bien que bon, j'ai craint de m'alimenter un peu trop.
Alors Stéphane Besançon, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour justement avoir en même temps l'énergie nécessaire, mais en même temps éviter ces nausées après un effort un petit peu intense, mixé entre les deux?
Oui, c'est compliqué parce que comme l'a dit Jean-Marc, effectivement, si l'apport est insuffisant, on va avoir coup de barre terrible. Après, il faut essayer de trouver, peut-être varier pendant une période d'une semaine, 15 jours, des aliments, essayer de voir parce qu'on sait qu'il y a toujours des choses qui passent mieux que d'autres. Mm-hmm. Et souvent, on essaye un, ça passe pas. Du coup, on n'essaye plus rien d'autre en se disant, j'y arrive pas, ça me donne des nausées. Donc, de peut-être faire des essais de différents aliments et de voir. Il y a en général à la fin, on arrive toujours à trouver quelque chose qui passe mieux et qui permet...
Quelque chose qui n'a pas trop alourdir, mais en même temps apporter suffisamment d'énergie.
Il y a peut-être une astuce qui peut être aussi de prendre une boisson de l'effort. C'est-à-dire une boisson qui apporte justement des glucides pendant votre effort et un petit peu après, ce qui peut peut-être réduire cet effet, si ça confirme bien ça, cet effet hypoglycémie éventuellement. Ça peut être cette astuce-là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'être totalement à jeun ou pratiquement à jeun, ça c'est probablement pas une bonne chose. Alors évidemment, si en dehors, bon, toujours avec cette réserve-là, hein, hein. Si en dehors de la pratique sportive, vous avez une fatigue anormale, bon, évidemment, là aussi, il faut consulter, hein. La fatigue, c'est un symptôme qu'il faut pouvoir explorer, et consulter votre médecin, voilà, pour pouvoir faire un bilan, bien sûr.
Très bonne journée, Jessica. Bonne journée au Cameroun. Beaucoup de questions d'auditeurs. On part tout de suite pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Pour retrouver en ligne Mansa Karinka, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à toute l'émission. Alors, priorité santé.
Bonjour à vous. Vous voulez nous parler en particulier d'un aliment que vous consommez. Racontez-nous Mansa Karinka.
Oui, je m'appelle Mansa Karinka Ndoumouya de la Guinée-Conakry. Je consomme actuellement très souvent un aliment qu'on appelle le petit cola. Et moi, ça devient maintenant une habitude pour moi. Mm-hmm. Mais en longueur de journée, il y a beaucoup de gens aussi qui le consomment comme moi. Mm-hmm. Je me suis dit, avant de m'avancer trop dedans, parce que ça devient déjà une habitude pour moi. Je voudrais savoir réellement, oui, ce que je suis en train de manger.
Quand vous dites quoi? Une habitude, c'est que vous arrêtez, vous arrivez plus trop à vous arrêter, c'est ça?
Oui. Ça devient maintenant une habitude presque, madame.
Et vous savez pourquoi vous en mangez? Il y a des informations qui circulent sur le bienfait de cette plante?
Très bien, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mm-hmm. à travers dans les causeries. Mm-hmm. Donc,
on en dit quoi? Ça a quoi comme réputation?
D'abord, il y en a qui disent que c'est bon pour la sexualité. Ouais. Il y en a qui disent que c'est bon pour la diabète, mm-hmm. l'hypertension, l'hémorragie, que même les fatigues, les maux de tête, la grippe. Madame, on rencontre beaucoup de choses là-dessus. Mm-hmm. Et moi, j'ai pensé que, ouais, pourquoi ne pas venir vers la radio-école, surtout l'émission Par Priorité Santé, pour en savoir
et
plus.
Et vous procurez où ce produit? C'est au marché? C'est où?
On le vend au marché.
Au marché, très bien.
Les petits étalagistes.
D'accord.
Les femmes,
sur les petits stands, les dames qui vendent. Stéphane Besançon, d'abord, on n'est pas tous familiers avec ce produit. Le petit cola, c'est quoi? C'est quoi les vertus supposées ou réelles de cette plante?
Alors, j'ai juste une dernière petite question pour qu'il n'y ait pas de confusion. On parle du petit cola ou de la noix de cola? Ça, c'est important parce qu'il y a les deux qui sont utilisés dans les propriétés que vous venez de dire. C'est la noix de cola ou c'est les feuilles ou les graines du petit cola? C'est deux choses différentes que vous utilisez. C'est lesquelles des deux?
C'est la noix du petit cola. Ah, c'est pas les feuilles, la noix.
Alors, si c'est la noix, c'est pas la même chose, hein, parce que le petit cola, c'est les feuilles et les graines qui sont consommées d'une plante, hein, qui est un autre type de plante. Par contre, si c'est la noix de cola, ça, c'est le fruit du colatier. Donc, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Alors, la première, la noix de cola, effectivement, il peut y avoir une addiction. On sait que les gens en croquent toute la journée, mm-hmm. parce que c'est très riche dans un dérivé qui ressemble très fortement à la caféine. C'est mm-hmm. ce qui donne de l'énergie, etc. Stimulant. Il n'y a pas de particularité nutritionnelle particulière. Ça soigne pas de maladie. Par contre, effectivement, ça a un effet addictif et stimulant. Mm-hmm. Donc ça, c'est la noix de cola. Et de faire attention, ça c'est très important, de gens qui disent que ça guérit le diabète, ça guérit l'hypertension. On le redit à chaque fois, c'est des maladies chroniques qui ne se guérissent pas, qui peuvent se traiter très bien, mais qui ne se guérissent pas. Donc la noix de cola n'a pas ces propriétés-là de guérison.
C'est
voilà.
pas un médicament.
Maintenant le petit cola, parce que peut-être que des auditeurs du Cameroun, du Togo, des zones où c'est très consommé peuvent aussi se poser la question. Là, ça va être soit les feuilles, soit les graines. Et là, les propriétés qui sont données, c'est plutôt sur, ben, on en parlait tout à l'heure, l'immunité, en fait, de protéger la grippe, etc. Alors ce qu'il faut faire attention là de nouveau, c'est quand on parle de combattre aussi fièvre, infection, on peut essayer au démarrage, mais très rapidement. Mm-hmm. Si la fièvre ne tombe pas ou que les infections ne se guérissent pas, il faut tout de suite aller consulter pour pas que ça prenne des proportions et qu'on risque d'en mourir d'une infection non traitée. Donc voilà, attention de ne pas confondre les deux aussi parce que c'est deux choses différentes. Et la noix de cola, peut-être ce que j'allais dire, attention aussi suivant votre âge et tout ça, parce qu'effectivement, c'est un excitant assez fort, donc il ne faut pas non plus en manger toute la journée. Et on a, nous, très souvent des gens qui arrêtent d'un coup et qui, du coup, font un peu des petites dépressions, entre guillemets, j'allais dire, parce que d'un seul coup, il y a une déstimulation très forte.
Et Mansa Karinka, c'est vrai que si vous dites « je commence à avoir l'habitude, j'arrive plus à arrêter », c'est qu'il y a un petit problème et peut-être qu'il faut un petit peu espacer les prises pour ne pas justement tomber dans une sorte d'addiction. Très bonne journée, Mansa Karinka. beaucoup de monde. On part pour le Burkina, il nous reste 5 minutes. On va faire vite, mais on veut l'avoir en ligne. Abdoul, qui est à Bobo-Dioulasso au Burkina. Bonjour Abdoul.
Bonjour Caroline.
À vous la parole, allez-y.
Voilà, en fait, je me suis inscrit en salle de gym, ça fait 3 ans maintenant. Mmh. Et à chaque fois, je vais en salle, seulement que les week-ends, je me repose. Mmh. Et bon, à chaque fois, j'essaie de consommer assez de sucre pour avoir de l'énergie. Mais jusqu'à présent, bon, ma masse corporelle n'a pas changé. Je fais de la musculation.
Parce que vous voulez gagner des muscles, hein, on va dire ça simplement.
Oui, voilà.
Vous vous trouvez trop fin.
Je ne sais pas, cela est dû à mon alimentation ou bien il y a quelque chose d'autre.
Vous mesurez combien, Abdoul ?
Je mesure 1m92.
Oui, vous êtes grand.
65 kilos.
Ah oui, vous êtes mince. Donc vous êtes fin, on va dire. Vous êtes un homme plutôt fin. Vous aimeriez gagner en masse corporelle. Quand vous dites je prends du sucre, sous quelle forme ?
Bon, je consomme assez de sucre, c'est-à-dire les boissons, surtout le fruit. Les jus de fruits, voilà.
Et avant une séance de musculation, vous mangez des choses particulières ?
Donc, je prends un jus de fruits avant d'aller en salle.
Docteur Jean-Marc Sen, muscle et poids, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Alors,
Exercice physique,
d'association. Et évidemment, si on veut prendre du muscle, il faut faire des exercices de musculation. Ça va de soi, Abdoul. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'abord dans la capacité finalement à développer du muscle et à être très musclé, il y a malheureusement une caractéristique génétique. C'est-à-dire, on n'est pas tous pareils. On peut être, si dans la famille on est grand et fin, eh bien, probablement, c'est votre physionomie et ça sera très difficile d'être extrêmement musclé parce que votre génétique vous le permet pas. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Et à ce moment-là, c'est d'accepter sa physionomie et de faire des choses qui sont adaptées, des sports qui sont adaptés à sa physionomie. Et puis surtout, bien voir que on a des qualités, même si on n'est pas absolument musclé dans le muscle. Ça, c'est la première chose, c'est accepter son physique. La deuxième chose, ça va être la programmation de l'entraînement qui va être important, évidemment. Il faut savoir qu'on peut pas gagner du muscle tout au long de l'année. Il va falloir le faire par de courtes périodes. Et là, il faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel du sport qui pourra faire une programmation d'entraînement qui sera tout à fait correcte. Et puis la troisième chose, dans l'alimentation, si on veut prendre du muscle, eh bien il faut effectivement apporter des protéines. Alors d'abord des protéines de l'alimentation courante, et ensuite il faut savoir qu'il y a des périodes, on appelle ça des fenêtres métaboliques. Il y a des périodes particulières où on sait qu'il faut apporter de l'alimentation toute la journée, et puis aussi juste après les séances de sport, parce qu'on sait que c'est là où les protéines vont être le mieux métabolisées pour pouvoir vous donner vos beaux muscles.
Stéphane Besançon, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a un régime miracle pour renforcer la musculature ?
Ce que vient de dire Jean-Marc, il n'y a rien d'autre à rajouter. Par contre, juste une chose en protection, en attention, on le voit arriver de plus en plus sur le continent africain, c'est les protéines en boîte, en fait.
En gros bidon.
Donc de faire attention là, de pas en consommer à outrance, parce que c'est mauvais pour la santé.
Voilà. Il y a des interactions, il y a des risques avec des interactions médicamenteuses, de surcharge. On a décrit vraiment des pathologies liées à l'utilisation de ces protéines avec des allégations quelquefois mensongères.
Donc on fait bien attention, même quand on veut garder du muscle, on garde aussi son cerveau, ça peut servir. On vous souhaite une très bonne journée, Abdoul. Merci à vous, messieurs, Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, Mali. Et merci à vous, docteur Jean-Marc Sen. À très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À C'est tout ça maquée, Ophélie Lassène, Juliette Bro, Didier Bleu et Laurence Nau aujourd'hui avec nous. Demain, nous parlerons des intoxications. Quels sont les produits et situations à risque? Quelle prise en charge? À quoi les antidotes servent-ils et comment sont-ils fabriqués? À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.